Orange. Transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 9h40 à Bangui en Centrafrique où depuis plusieurs mois maintenant, plus de 1500 musulmans sont bloqués dans le quartier du PK12, assiégés par les anti-balakas. Ces musulmans vivent finalement dans une enclave et pour leur permettre d'échapper aux violences, eh bien le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vient de procéder à la première opération d'évacuation. 93 d'entre eux ont été déplacés à Bambari, une ville située à 300 km au nord-est de la capitale. Ils ont été escortés par des militaires français et vivent désormais sur un site spécialement aménagé pour les accueillir. Deux autres convois, l'un de 1200 personnes et l'autre à peu près de 200 personnes, sont prévus dans les prochains jours. En tout cas, hier, sur notre antenne, vous l'avez certainement entendu, la ministre en charge de la réconciliation n'a pas caché son mécontentement. Non seulement elle affirme ne pas avoir été associée à ces évacuations, mais Antoinette Montaigne constate que les évacuations organisées par la communauté internationale, les déplacements des populations musulmane constitue de facto, je cite, les prémices de la division du pays. Alors partagez-vous les inquiétudes de la ministre, les craintes d'une partition du pays. Que pensez-vous de ces évacuations? Peut-on parler d'un échec finalement de la communauté internationale qui est incapable de protéger les musulmans dans leur quartier et qui doit donc les évacuer? 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Je lirai quelques-unes de vos réactions dans le courant du débat. Et pour commencer le débat, nous avons Edgar qui nous appelle de Bangui. Bonjour Edgar.
Oui, bonjour Juan.
Vous ne comprenez pas ces évacuations?
Oui, nous on ne comprend pas ces évacuations qui se fait à l'initiative de la communauté internationale par le haut commissaire du HCR. Et que nous déplorons le fait que la communauté internationale qui vient soutenir la RCA dans cette crise, ne puisse pas se conformer dans la moindre mesure à la souveraineté et à l'autorité de l'État centrafricain. La déclaration de Madame le ministre de la Communication et chargée de la Réconciliation nationale justifie cette manière unilatérale de prise de décision de la communauté internationale vis-à-vis de la RCA.
Alors elle regrette effectivement de ne pas avoir été associée, tout du moins à cette première opération d'évacuation. S'agissant des prémices de la division du pays, est-ce que vous partagez également son analyse?
Oui, la partition du pays n'est qu'un projet funeste qui ne tient pas debout. Le Soudan, aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que c'est divisé entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Et que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a que la guerre et la RCA est une et indivisible. Lorsque on met en place ces projets de déplacement des musulmans pour les amener vers l'est du pays, mais croyez-moi, est-ce que ça c'est la solution pour rétablir la paix et la sécurité en République sabatienne? Je crois que c'est faux. Une initiative qui ne fait qu'aggraver la tension de la crise et le problème. On n'en est pas là.
Donc ça signifie que ces déplacements, ce n'est pas la bonne solution.
Ben oui, ce n'est pas la bonne solution. Le problème, il est question de désarmer les groupes armés en conflit et les Seleka et les anti-Balaka et chercher à rétablir la sécurité à l'intérieur du pays et dans la capitale.
Donc la solution passe, dites-vous, par le désarmement. Vous êtes encore nombreux sur la page Facebook de l'émission à dire « Mais pourquoi la résolution 2127 des Nations Unies n'est-elle pas appliquée? Que font les forces Sangaris et la force africaine déployée en Centrafrique pour désarmer tout simplement les différents groupes ?» Merci Edgar d'avoir lancé le débat. Merci de nous avoir appelé de Bangui. On reste dans la capitale centrafricaine. Stéphane est avec nous. Bonjour.
Bonjour Juan.
Vous aussi, vous partagez les craintes de la ministre chargée de la réunification.
La ministre a tout à fait raison. Tout à fait raison. Pourquoi? Parce que cette opération, elle voit l'échec. Un échec qui est dû à un complot presque. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à identifier qui est musulman centrafricain et qui est mercenaire tchadien et soudanais. On n'arrive pas à identifier cette population. Il y a tout un amalgame autour de cette question. On prend à la fois des Tchadiens et Soudanais mercenaires armés mélangés avec la population musulmane centrafricaine pour les amener au nord du pays.
Alors attendez, Stéphane.
Ça crée un gros problème.
Que je comprenne, vous êtes en train de nous dire que lors de la première évacuation, donc samedi et dimanche dernier, il y aurait eu parmi les 83 déplacés des personnes qui étaient armées.
Tout à fait.
Mais vous l'avez vu ça, Stéphane, vous l'avez vu ou ce sont des rumeurs? C'est important, hein.
Je vis à Bangui, je suis centrafricain.
Oui.
Je vous parle de ce que je vis ici. Les résolutions 21-21.
Non mais attendez, Stéphane, excusez-moi, c'est important, attendez, ne passez pas à autre chose, c'est important parce que vous affirmez quelque chose quand même qui est grave, c'est-à-dire que, à vous entendre, le HCR aurait laissé partir et aurait mis dans cette première opération d'évacuation, aurait laissé partir des gens avec des armes.
Tout à fait. Avec les Sangaris qui les accompagnent. Il y a des gens en armes qu'on a transférés de Bangui à Bombari et sur des sites. Et ils sont armés. Ça, personne ne va me démentir. C'est ce qu'on vit ici. Mmh. Et donc, ça nous semble être une confusion. Et cela prouve bien le projet funeste de cette partition de la RCA que nous déplorons tous.
Ouais. Que faire, Stéphane, pour éviter ce scénario, celui de la partition?
Pour éviter ce scénario, il faudrait simplement appliquer les résolutions 21-21, 21-34, c'est-à-dire désarmer toutes les forces non officielles qui sont avec les armes, les Silika et les Antibalaka, les désarmer et mettre la population musulmane centrafricaine en confiance. Et c'est fini. Mmh. Qu'on fasse repartir les mercenaires tchadiens et soudanais qui se mélangent avec la population civile. C'est simple. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on complique.
Alors Stéphane, ne raccrochez pas. Vous êtes à Bangui. Je voudrais qu'on accueille Barak qui nous appelle de Mundu. Bonjour Barak.
Bonjour, Roman.
Alors, vous souhaitez témoigner, puisque vous avez vécu, c'est ce que vous avez dit au Standard, 3 ans à Bangui, vous avez quitté la Centrafrique le 24 décembre dernier, vous êtes parti vous installer donc au Tchad, qui est votre pays d'origine, hein. Vous êtes tchadien, c'est bien ça, Barak?
Oui, je suis tchadien.
Vous êtes tchadien, et vous souhaitiez réagir hein, à ces évacuations?
Justement, ces évacuations sont salutaires pour ceux qui ont subi les évacuations dans le kilomètre 5, P4-12. Et ils n'ont pas autre issue que de s'exiler dans leur propre pays. Mais cela n'est pas une solution dans la mesure où ça va engendrer
d'autres. Barak, excusez-moi, je vous interromps. Je vous interromps, Barak. On va vous rappeler dans un instant. Le réseau est trop mauvais, malheureusement. Et je sais que vous êtes quelques-uns à nous appeler du Tchad et les lignes téléphoniques ne sont pas bonnes ce matin. Mais ne vous inquiétez pas, on fait le maximum, hors antenne, pour vous recontacter. 33 9 693 693 70. Il y a William qui nous dit, la préoccupation de la ministre de la Réconciliation est légitime, mais elle oublie une chose élémentaire. Seuls les vivants peuvent se réconcilier. Autrement dit, finalement, c'est la seule solution aujourd'hui pour permettre aux habitants de PK12 de rester en vie. C'est l'analyse en tout cas de William. Modibo, toujours sur Facebook, on comprend la crainte des autorités, mais il n'y a pas d'autre solution à l'heure actuelle. Il faut sauver des vies. Mokhtar estime que cette délocalisation des musulmans risque d'entraver la paix et l'entente entre musulmans et chrétiens. Moussa, bonjour.
Bonjour RFI, je vous remercie de m'avoir donné la parole.
C'est normal, vous nous appelez de Bamako et vous souhaitiez vous réagir à la situation en Centrafrique en vous inspirant de la situation dans votre pays, le Mali.
Effectivement, mon pays, le Mali, je suis d'origine Touareg, a été confronté à une crise en 2012. Donc nous, notre gouvernement a bien géré la crise, on s'appuie sur un concept de non-amalgame et de stigmatisation. C'est très important. Donc moi, je pense que nous, qui étions Touareg du Nord, on n'était pas inquiétés dans les villes du Sud parce que les Maliens, l'ensemble de nos compatriotes ont compris qu'on n'a pas la même idéologie que ces groupes qui ont pris les armes. Mmh. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, que l'ensemble des Centrafricains doivent comprendre que leurs compatriotes musulmans ne doivent pas être assimilés à ce Silika.
Bien sûr, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des actions qui sont menées ici et là par les chefs religieux, les responsables de la communauté musulmane, chrétienne, pour éviter les amalgames. Mais on voit bien que ce message a du mal à passer auprès de l'opinion publique.
Moi, je pense que c'est un problème de communication. Il faut diffuser ça dans toutes les langues et utiliser toutes les langues de communication. Il faut que ce soit un truc qui est confrontiel. Donc, il faut l'implication de tout le monde. C'est très important. Sinon, avec ce problème, on amènerait la Centrafrique dans une guerre ethnico-religieuse.
Bien sûr.
C'est aussi qui est anormal. Donc, moi, je pense qu'il faut que l'ensemble, et c'est un message que j'envoie à l'ensemble des Centrafricains. Les Sénécas qui ont pris les armes, qui sont d'origine soudanaise ou tchadienne, ne doivent pas être assimilés à leurs compatriotes.
Voilà, donc évitez l'amalgame. Merci Moussa de votre témoignage, de votre réaction de Bamako. 33 9 693 693 70. On retourne au Tchad. Une nouvelle tentative avec un autre auditeur. Abdoulaye, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous aussi, vous souhaitez témoigner ce matin sur l'antenne des RFI. Vous dites que le déplacement des musulmans est une très mauvaise solution, d'autant que vous avez vécu, vous, un déplacement, on va dire, presque forcé, puisque vous viviez en Centrafrique, et à cause des violences, puisque vous êtes musulman, vous avez dû fuir et vous installer au Tchad.
Bon, moi, j'avais dit que non, mais pourquoi on parle de la réconciliation pour l'instant? Et encore, on entend parler des déplacements massifs des musulmans vers le nord. Mais c'est pas normal. Comment peut-on déplacer ces musulmans si ce ne sont pas des centrafricains? Et puis, il y a la MISCA qui est là, il y a l'armée française. Au lieu de protéger ces musulmans, mais encore, on compte aller déplacer, mais c'est pas normal. Les musulmans, on est bien là-bas. Par exemple, dans le cas que moi, j'ai mes parents qui sont encore là-bas et j'ai l'espoir que je peux retourner encore à Bangui. Mais si on les déplace, est-ce qu'on a l'espoir de retourner à Bangui?
Vous avez l'espoir de retourner à Bangui, Abdoulaye?
Bien sûr, j'ai l'espoir de retourner à Bangui parce que c'est mon pays, c'est ma capitale, donc j'ai l'espoir de retourner. Si la paix soit rétablie, absolument, on compte aller les faire déplacer. Mais si on les déplace, est-ce qu'on a l'espoir de rentrer encore? Et c'est la division qui... C'est ainsi la division qui se fait actuellement.
Ouais.
On voit que les musulmans, on les déplace de la capitale, ils sont vers le nord, certains sont vers l'est. Donc c'est la division et c'est le partage du pays qui se passe actuellement. On n'est pas tout à fait d'accord avec ça.
Ouais, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Alors, il y a d'autres auditeurs qui ne sont pas d'accord avec ce déplacement des musulmans. Merci Abdoulaye et merci de ce témoignage. Bon courage à Mundu, au Tchad. Nous avons Hervé qui nous appelle de Marseille. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour Juan. Je vous remercie de m'accueillir.
On vous écoute.
Par rapport au sujet, je suis d'avis avec la ministre de la Réconciliation. Le fait de déplacer des populations sur des bases purement religieuses, c'est aller à la partition du pays, comme les sécessionnistes le souhaitent, en fait.
D'accord, mais en même temps, comme disaient tout à l'heure certains internautes que je citais à l'antenne, aujourd'hui, il y a une urgence, et l'urgence, c'est d'essayer de sauver des vies. Qu'est-ce qu'on fait?
C'est tout simple. Les forces internationales ont commencé à le faire dans Bangui même. C'est-à-dire que depuis le départ, nous avons préconisé que, par exemple, la venue de Koudoukou, qui était impraticable depuis 3 mois, on devait placer des forces tout le long de ce parcours pour permettre de sécuriser, essayer de calmer les esprits et ce genre de choses. Et c'est seulement maintenant que ça a été fait, on a vu qu'il y a eu un début de résultat. Et ces populations musulmanes qui sont centrafricaines à part entière doivent être tout simplement protégées et puis amener les uns et les autres, les anti-Balaka, les gens qui sont révoltés à la raison.
C'est ce que dit Désiré sur Facebook, il dit « Nous les Centrafricains, nous sommes condamnés à vivre ensemble, demandons à la MISCA de faire son travail et d'appliquer la résolution 21-27 de l'ONU pour sécuriser la population. » Jersey nous dit « La délocalisation des musulmans de Bangui n'est pas la solution pour la stabilisation du pays. Ce que l'ONU devrait faire, c'est désarmer tous les groupes armés, Séléka et anti-Balaka. » Hervé, merci beaucoup, merci d'écouter RFI à Marseille. Hyacinthe, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de la capitale centrafricaine. Nous vous écoutons. Vous êtes contre ce déplacement également?
Oui, je suis contre. Je suis contre le déplacement des musulmans vers le nord. Je partage la crainte de Madame la ministre en charge de la réconciliation. Je dis souvent que la crise centrafricaine, elle est politique, elle n'est pas religieuse. Et le problème qui se pose, d'abord, la résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité est claire. Les forces ici en place, à savoir la MISCA et les Sangaris, ils ont eu la mission de désarmer de force ou de gré toutes les parties en conflit, c'est-à-dire les Séléka et les Balaka. Alors, aujourd'hui, accepter de relocaliser les sujets musulmans vers le nord avec leurs armes à la main, c'est accepter le projet des extrémistes musulmans qui rêvent à la partition de la RCA.
Ouais. Alors vous êtes contre, on me dit au casque que nous avons, parce que Oumar, qui est pour être très honnête avec vous, peut-être le débat peut vous sembler déséquilibré, mais c'est ainsi, on fait avec ce qu'on reçoit au standard, et il y a une quasi-unanimité d'auditeurs qui ne partagent pas ce concept de délocalisation des musulmans de la capitale et du quartier PK12. Oumar, vous êtes en Centrafrique? Ah non, vous êtes centrafricain de Paris, me dit-on. On vous écoute.
Écoutez, moi, ce que je veux dire, c'est que les gens, ils posent pas le vrai problème de quoi il s'agit. Il s'agit de la sécurité des musulmans qui sont reclus dans une sorte de no man's land. Les gens ne peuvent même pas sortir pour aller dans les hôpitaux, ne serait-ce que pour aller chercher de quoi manger. Voilà. Et pourquoi cela? Mais parce que les anti-Balaka, font la loi à Bangui. Ils viennent, ils massacrent. Aucune protection n'est proposée à ces gens. Le gouvernement qui s'insurge contre ces mesures-là n'a rien fait depuis l'installation de ce nouveau régime-là.
Mais vous accusez, excusez-moi, vous accusez les anti-Balaka, mais Yassine, qui est toujours en ligne, le disait lui-même, lui, il accuse tout simplement la force internationale sur le terrain de ne pas faire son travail et de ne pas désarmer ceux qui encerclent le PK12.
Mais les forces internationales, comment dirais-je ça, ils ont mandat de pouvoir faire ce travail-là. Mais il se trouve que, à mon avis, ce travail n'est pas effectivement fait.
Mais pourquoi? C'est peut-être ça le vrai problème.
Pour quelle raison? Mais ce travail n'est pas fait pour la simple raison que mandat n'a pas été donné à cette force-là, à mon avis. Voilà. Et donc, il faudrait que mandat soit donné d'user de la force pour désarmer les milices anti-Balaka. La Séléka a été désarmée. Et je me demande pourquoi est-ce que les milices anti-Balaka ne sont pas. Mais pour la simple raison que les milices Balaka ne constituent pas une force conventionnelle. Tout et n'importe qui, des gens civils qui peuvent comme ça se fondre rapidement dans la population, voyez-vous. Et donc, c'est pas évident de désarmer ces gens-là qui n'ont pas des accoutrements de militaires fonctionnels.
Alors, Oumar, vous dites que ce n'est pas évident de désarmer les anti-Balaka. Aristide, vous êtes à Bangui. Bonjour, Aristide.
Bonjour Juan.
En quelques mots, malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne, on arrive à la fin de l'émission. Vous êtes d'accord avec Oumar lorsqu'il dit que c'est difficile de désarmer les anti-Balaka?
Selon moi, c'est pas difficile de désarmer les anti-Balaka parce que je pense bien que les anti-Balaka, ils ont des leaders. Et si on arrive à trouver un consensus avec les leaders et on leur demande de désarmer leur milice, je pense qu'ils peuvent le faire. C'est parce qu'il n'y a pas encore eu d'entente avec les leaders et on les laisse faire. Et ceux qui les laissent faire, pour moi, c'est la communauté internationale. Parce qu'ils ont mandat de désarmer toutes les milices, que ce soit les Séléka et les anti-Balaka. Et parce que s'il n'y a pas de désarmement, il ne peut pas avoir de retour à la paix. Parce que sans désarmement, on ne peut pas parler de paix avec quelqu'un qui est en armes.
Ouais, donc la solution ne passe pas par ces opérations d'évacuation, mais par le désarmement. On aura l'occasion, c'est promis, de revenir sur ce sujet dans les prochains jours, vu le nombre de réactions et l'intérêt que ça suscite. En tout cas, merci à tous de votre fidélité. Demain, nous serons de retour avec vos questions à la rédaction. N'hésitez pas, appelez-nous, le standard reste ouvert tout au long de la journée. Et en deuxième partie, vous pourrez réagir au retour d'Abdoulaye Wade. Et oui, après 2 ans d'absence, l'ancien président sénégalais est attendu cet après-midi à Dakar, dans un entretien qu'il accorde aujourd'hui même à Christophe Boisbouvier, que vous avez certainement entendu sur notre antenne. Abdoulaye Wade affirme qu'il rentre au Sénégal pour soutenir son fils Karim, mais aussi pour rassembler son parti, car il veut fédérer tous les libéraux du Sénégal pour, dit-il, remettre le libéralisme au pouvoir pendant 50 ans.
Appel sur l'actualité.